affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. Lors des vacances d'hiver, je me trouvais dans les Alpes de Haute-Provence, les Basses Alpes donc, pour y passer les fêtes. À cette occasion, lors de repas de famille, comme certainement dans beaucoup d'autres régions de France, il était question des gilets jaunes. Mais dans ce pays d'élevage de brebis, un autre sujet occupait les conversations. Le retour du loup qui, dit-on, avait été aperçu à quelques kilomètres du village. Était-ce dû à la tombée précoce de la nuit, à l'ambiance de veillée ancestrale qui s'emparait de la maisonnée ? Toujours est-il que le loup déchaînait les passions. Certains se déclaraient favorables à sa réintroduction, d'autres, généralement natifs du village, s'y opposaient avec une égale véhémence. D'autres encore, généralement de jeunes mamans, s'inquiétaient. Ne faut-il pas désormais interdire aux enfants de jouer dehors après la tombée de la nuit ? De ces conversations, on peut en tout cas, sans trancher ces débats, conserver une conviction. Le loup conserve, dans l'imaginaire français et européen, en tout cas dans les campagnes, une place à part. Il suscite des sentiments violents, excite l'imagination. Et nous allons creuser ce sujet, s'interroger sur les causes de ces passions, causes certainement ancestrales, car nous avons la chance de recevoir dans notre studio Michel Pastoureau. Michel Pastoureau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste de nombreux domaines, dont l'héraldique, les couleurs, mais aussi les animaux que vous abordez sous la forme d'histoire culturelle. Et justement, vous avez publié tout récemment une histoire culturelle du loup. Pouvez-vous donc apporter votre propre éclairage sur ce dont j'ai été témoin cet hiver et nous dire d'où cela vient-il ?
Cela vient de très loin. Le loup, en effet, occupe une place considérable dans l'imaginaire européen, dans les représentations, dans les superstitions, dans le monde des symboles. Il y a un certain nombre d'années, j'avais dégagé avec François Poplin du Muséum d'Histoire Naturelle la notion de bestiaire central, l'idée qu'il y avait dans, sinon toutes les sociétés, en tout cas dans beaucoup de sociétés, un petit nombre d'animaux qui comptaient plus que les autres sur le plan de l'imaginaire et que l'on pouvait appeler le bestiaire central. Alors dans les sociétés européennes, il y a une douzaine d'animaux qui prennent en effet le pas sur tous les autres. Le loup en fait partie, et non seulement il en fait partie, mais je crois qu'il est dans le trio de tête avec l'ours et le corbeau. Ce sont les trois vedettes du bestiaire symbolique depuis des temps très très reculés.
Alors, vous parlez de temps reculé. L'ouvrage s'ouvre par une évocation du néolithique. Que conserve-t-on comme témoignage de cette époque ?
Oui, quand on remonte plus haut, au paléolithique, on a peu ou pas de traces du loup. Il est absent des représentations sur les murs des grottes. Il y a tout un bestiaire, mais le loup n'en fait pas partie. Dans la peinture pariétale, il est absent. Il faut descendre le fil des millénaires, arriver en effet au néolithique, aux époques où le loup, où l'homme est devenu sédentaire, éleveur de troupeaux. Et là, le loup devient un animal redouté parce qu'il s'approche du bétail. Il s'approche des villages. On a peu de traces, évidemment, à utiliser directement, mais on a les mythologies antiques pour lesquelles le loup est une des vedettes. Il est même omniprésent dans les mythologies celtes, slaves, germano-scandinaves et naturellement gréco-romaines.
Alors commençons peut-être par celle-ci.
Oui, quand on regarde la mythologie grecque, on s'aperçoit que le loup est l'attribut d'un certain nombre de divinités, et pas des moindres, Arès, le dieu de la guerre, Artémis, la déesse des bêtes sauvages, et son frère jumeau, surtout Apollon, qui a pour attribut de nombreux animaux, mais le plus important, c'est le loup, ce qui vaut parfois l'adjectif accolé au nom d'Apollon, Apollon lycéen. C'est lié à sa naissance. Zeus avait mis en état de grossesse Leto, ce qui a provoqué la jalousie de son épouse légitime Héra, et pour protéger Leto et les deux enfants qu'elle allait avoir de Zeus, les deux jumeaux, Apollon et Artémis, Zeus les a changés en louves et en louveteaux, ils se sont enfuis. Ça a accompagné cette idée de loup Apollon pendant de nombreuses histoires liées à ce dieu qui est peut-être la principale divinité du panthéon grec. En tout cas, ça nous a valu un certain nombre d'histoires et de vocabulaire. Par exemple, le mot lycée en français est lié à Apollon, on l'oublie. À l'époque d'Aristote, dans les environs d'Athènes, il y avait un bois sacré où il y avait des cultes d'Apollon. Et c'était Apollon lycéen, et c'est là où Aristote donnait son enseignement, ce qui fait que ce nom lycée est devenu un nom d'établissement scolaire à partir du 19e siècle, peut-être même on trouve des traces dès le 18e siècle. Donc on a oublié que Apollon était là derrière, mais il y a bien une longue durée de ce vocabulaire lié au loup. Et puis dans la mythologie grecque et romaine, on trouve associé au loup de nombreuses histoires de déguisement et de métamorphose. C'est un des traits principaux de ce qui se rattache au loup. Le loup, c'est l'animal qui se déguise, c'est l'animal qui peut prendre apparence humaine, ou inversement et plus fréquemment, des humains qui peuvent prendre l'apparence d'un loup. Ovide, dans son livre Les Métamorphoses, un des textes fondateurs de la culture occidentale, nous raconte plusieurs centaines d'histoires de métamorphoses. La première qu'il raconte, qui étudie tous les lycéens qui font du latin, c'est la métamorphose d'un dieu d'Arcadie, Lycaon, que Zeus a changé en loup parce que l'affreux Lycaon l'avait invité à un banquet et lui avait servi la chair d'un nourrisson. Nourrisson qui était peut-être d'ailleurs un enfant de Zeus.
Alors à cette époque, dans l'Antiquité grecque, mais aussi romaine, mais vous évoquez également la mythologie germanique ou scandinave, ou enfin celte, quelle est l'image du loup? Elle semble plus ambivalente que ce qui suivra par la suite.
Oui, dans l'Antiquité gréco-romaine, comme d'ailleurs pour les peuples de la Bible, le loup ne semble pas un animal dangereux pour les humains. Il n'est pas particulièrement redouté, il est dangereux pour le bétail. Et alors on a beaucoup d'histoires, bien sûr, de troupeaux qui ont été dévastés par des meutes de loups. Dans la Bible, on a des métaphores qui soulignent que cet animal est rapace, vorace, rusé. Mais on ne sent pas une peur immense, comme on va la voir par la suite, envers ce fauve. Ça se passe un peu différemment. Alors, est-ce que les loups méditerranéens étaient moins redoutables, moins féroces, moins enragés peut-être que les loups qui vont suivre, ceux du Moyen-Âge et qui venaient peut-être de plus au nord? Quand on regarde la mythologie germanique, on a présence d'un loup épouvantable, Fenrir, que les dieux du panthéon nordique ont enchaîné tellement il est terrifiant, mais il va briser ses chaînes et c'est lui qui va causer la mort des principaux dieux et entraîner le crépuscule de toute cette mythologie germano-scandinave. Il va dévorer Odin, la principale figure du panthéon nordique. Ses deux enfants, deux autres loups, vont dévorer le soleil et la lune. Bref, il est cause de la fin du monde.
Et à Rome, parce que quand on pense au loup dans l'Antiquité, spontanément, on pense à Rome, on pense à la fondation de Rome.
Bien sûr.
Il faut nous rappeler peut-être l'histoire d'Ormu et Rémulus, bien sûr, mais...
Voilà, une louve est à l'origine de la fondation de Rome, enfin pas toute seule, mais elle joue un rôle important. C'est une histoire de parenté et de succession. Un roi régnait sur Albe, il n'avait qu'une fille qui était Vestale, Rea Silva. Donc son frère espérait lui succéder sur le trône d'Albe. Mais Rea Silva a été engrossée par le dieu Mars lui-même et a accouché des jumeaux, fureur du futur oncle. de l'oncle, futur roi, qui décide de faire passer de vie à trépas les deux jumeaux. Il ne les tue pas lui-même, mais il les place dans une corbeille sur le Tibre, pensant qu'ils vont se noyer. Le Tibre était en crue, mais le fleuve a eu pitié des deux jumeaux, les a déposés sur le rivage près d'une grotte où ils ont été recueillis par une louve qui les a nourris de son lait au pied du mont Palatin. Plus tard, un aigle sympathique a apporté de la nourriture. Plus tard encore, un berger a recueilli les deux jumeaux. C'est toute l'histoire donc de Romulus et Rémus qui, devenus grands, ont décidé de fonder une ville, mais ils n'étaient pas d'accord sur l'endroit exact où elle se tiendrait, d'où une dispute et un fratricide. Rémus a été tué par son frère Romulus, donc à l'origine de la ville de Rome, il y a un fratricide. Mais il y a aussi une louve, et cette louve nourricière qui avait recueilli les jumeaux a été honorée pendant toute la durée de l'histoire romaine. Elle est même célébrée au mois de février, au milieu du mois de février, par des fêtes spéciales, les Lupercales, qui sont à la fois des fêtes en l'honneur de la louve et des fêtes de fécondité, de fertilité, qui donnent lieu à des rituels qui, plus on avance dans le temps, dégénèrent quelque peu. Les prêtres des Lupercales parcourent la colline du Palatin en frappant avec des morceaux de toison, de bouc ou de chèvre, des femmes qui souhaitent devenir mère, un rituel de fertilité. Ça finit par, à la fin de l'Empire romain, dégénérer dans une sorte d'orgie collective. Le pape Gélase y a mis fin, a terminé ses fêtes des Lupercales, mais elles durent quand même une dizaine de siècles.
Oui, parce que vous dites le pape Gélase, c'est au 5e siècle.
Oui, on est au 5e siècle, voilà, oui.
C'est pas si loin. Les temps avaient pourtant probablement changé à cette époque. Alors, certains ont soulevé que l'aigle et la louve, ce ne sont finalement pas des animaux extrêmement valorisants pour une fondation.
Non, c'est vrai. Ce sont deux animaux qui vont devenir des sortes de totems et d'emblèmes, bien sûr, de la Rome antique. On les voit représentés sur de nombreux monuments, sur les monnaies. L'aigle prendra place au sommet des hampes tenues par les légionnaires. L'aigle, c'est quand même le roi des oiseaux et parfois même le roi des animaux dans les sociétés antiques, en concurrence avec le lion. La louve, elle est plutôt plus sympathique que le mâle, le loup, qui peut être très sauvage et cruel. La louve est une bonne mère, à l'image de la louve qui a élevé Romulus et Rémus, mais elle a aussi une réputation de lubricité. En latin classique, le mot lupa désigne tantôt la louve, tantôt la prostituée, ce qui a donné le français moderne lupanar, un lieu de prostitution. Donc en effet, elle est ambivalente, c'est assez fréquent dans la symbolique animale, beaucoup d'animaux ont des bons et des mauvais aspects. Selon les époques et les contextes, le négatif l'emporte ou le positif l'emporte.
Alors avec le christianisme, c'est franchement l'irruption du christianisme et son développement, c'est franchement le négatif qui l'emporte, s'agissant du loup.
Oui, le haut Moyen-Âge chrétien pour le loup est une période de grande dévalorisation. La vie dans les campagnes a complètement changé avec l'effondrement de l'Empire romain. Il n'y a plus d'autorité centrale, la forêt regagne du terrain, la friche aussi. On vit en autarcie presque dans des petites unités. Le climat n'est pas très favorable, les hommes ont faim, les animaux sauvages ont faim aussi et s'approchent des villages, des lieux habités, et commence à devenir dangereux pour les hommes, les femmes et les enfants. Et c'est là que se dresse, entre le 6e et le 11e siècle, le portrait très négatif du loup qui va perdurer jusqu'en plein 19e siècle. On lui attribue désormais, dans les encyclopédies, puis dans les bestiaires, un cortège d'adjectifs particulièrement dépréciatifs. Il est vorace, il est cruel, il est rusé, il est hypocrite. Il est lubrique, il est paresseux, il est lâche, et même parfois il est ridicule. Bref, il n'est jamais pris en bonne part, et ce portrait va lui coller à la peau jusque dans les campagnes européennes de notre 21e siècle.
Oui, puis c'est un animal diabolique.
C'est un animal diabolique, c'est une vedette du bestiaire du diable. Le diable lui-même, d'ailleurs, dans un certain nombre d'histoires, prend la forme d'un loup pour participer au sabbat ou pour venir tourmenter les hommes, les femmes et surtout les moines. La géographie en parle assez souvent. Le loup véritable qui n'a, pour ainsi dire, jamais un pelage complètement noir, dans l'imaginaire, dans les représentation devient l'animal noir par excellence. Il y a là un écart chromatique avec la réalité. Les vrais loups sont gris, sont roux, sont tachetés, sont bruns, sont parfois blancs, mais totalement noirs, non, jamais. Et pourtant, dans l'imaginaire, c'est l'animal noir par excellence avec le corbeau.
Alors toutefois, dans cette époque chrétienne, ça en dit d'ailleurs long sur la mentalité chrétienne, le loup peut être certes chassé par les louvetiers, mais sinon dans les récits diffusés par l'Église, les saints ne tuent pas les loups, ils les convertissent en quelque sorte.
Oui, il y a dans la géographie beaucoup d'histoires de loups comme il y a beaucoup d'histoires d'ours. C'est un moyen pour l'Église de dompter le fauve, en quelque sorte, de montrer que le saint est plus fort que la bête sauvage, mais non pas en la tuant, mais en l'amadouant, en se faisant obéir. Alors on a des histoires du type un saint part en voyage, une mule porte ses bagages, arrive un loup qui mange la mule. Le saint oblige le loup à porter les bagages à la place de la mule qu'il a dévorée. Ou bien un saint est en train de garder son troupeau accompagné d'un chien. Arrive un loup qui mange le chien. Le saint le transforme en chien de berger. Dans ma chère Bretagne, on a Saint Hervé, qui est un grand saint breton, qui est aveugle et qui est guidé par un chien. Arrive un loup qui mange le chien. Hervé demande et oblige même le loup à devenir son compagnon qui va le guider dans sa cécité. Et puis, on a l'histoire la plus célèbre, peut-être celle de Saint François d'Assise, qui un jour où il arrivait en Ombrie, à la limite de la Toscane, dans la ville de Gubbio, apprend qu'un loup terrifiant terrorise les habitants non seulement de la ville mais de toute la contrée. Il va trouver le loup, il lui parle comme si c'était un frère chrétien, il l'appelle frère loup, hein. C'est toute la spiritualité franciscaine qui pense que les animaux sont des enfants de Dieu. Donc François réussit à amadouer le loup, à s'en faire obéir, et ce loup de Gubbio devient la mascotte des habitants de la ville qui le nourrissent. Il aurait vécu très très longtemps. Aujourd'hui, quand on voit à Gubbio, on le voit représenté absolument partout. Donc la géographie met en scène des saints, c'est-à-dire des hommes de Dieu qui arrivent à domestiquer, dompter des bêtes sauvages, y compris les plus cruelles.
Il y en a même un saint qui s'appelle Saint-Loup.
C'est une autre stratégie de l'Église pour éradiquer soit des cultes païens envers tel ou tel animal, l'ours surtout, soit des croyances et des terreurs. C'est de placer aux époques de fêtes païennes liées à tel ou tel animal des fêtes chrétiennes et de donner à des personnages plus ou moins fictifs, des saints du très haut Moyen-Âge, des noms d'animaux. On a Saint-Ours, on a Saint-Loup est un personnage alors historique bien connu, c'est un évêque de Troyes qui s'appelle Loup, qui a sauvé la ville à plusieurs reprises de différentes calamités et qui est très honoré non seulement en Champagne mais dans les régions avoisinantes.
Vous avez utilisé à plusieurs reprises le terme de bestiaire qui occupe une grande place au Moyen-Âge. Pouvez-vous nous préciser ce dont il s'agit? Car un bestiaire, ça pourrait être une notion un peu abstraite, mais en fait, ce sont des choses formalisées, si je m'ai compris.
Voilà, bestiaire peut être pris dans un sens très très large. L'idée d'un ensemble d'animaux qui forment les uns avec les autres des relations qui constituent une sorte de système, hein. C'est plus fort qu'une faune, hein, un bestiaire, mais c'est aussi, pour l'historien médiéviste, un type d'ouvrage bien particulier, des textes qui nous parlent des animaux, et seulement des animaux, à la fois du point de vue de ce qu'on appellerait, nous, l'histoire naturelle aujourd'hui, mais aussi de l'histoire religieuse, de la morale religieuse. Donc, ces textes qui apparaissent apparaissent dès l'époque carolingienne, mais qui sont surtout prolifiques au XIe, XIIe et XIIIe siècle, qui ont donné lieu d'ailleurs à des manuscrits enluminés de belles factures et assez nombreux, nous présentent tel ou tel animal, alors dans ses habitudes, ses mœurs, ses caractères physiques, et puis ils sont interprétés, qu'est-ce qu'ils signifient par rapport à l'histoire sainte et par rapport au jeu des vices et des vertus, sont-ils pour l'être humain des modèles ou au contraire des repoussoirs? Il y a un bestiaire du Christ comme il y a un bestiaire du diable qui est plus abondant. Le loup naturellement prend place dans le bestiaire du diable.
Et vous nous dites qu'il y a aussi un bestiaire d'amour. Plus original est celui-là.
Au XIIIe siècle. Voilà, au XIIIe siècle, ce type de littérature commence à se diversifier et un clerc particulièrement subtil et un très très grand écrivain, Richard de Fournival, écrit un bestiaire d'amour autour de la casuistique amoureuse, en prenant l'exemple des animaux et ce que nous en disent les bestiaires traditionnels. Il transfère son propos vers la chasse amoureuse et donne des conseils à un soupirant qui cherche à conquérir une dame, ce qu'il faut faire et ne pas faire, en s'inspirant du comportement de tel ou tel animal. Il ne fait que se plaindre, d'ailleurs lui-même qui soupire auprès de telle ou telle dame, chaque fois ça finit mal, il n'a pas réussi à parvenir à ses fins, donc il donne des conseils à ses lecteurs. C'est un des plus beaux textes de la littérature médiévale, le bestiaire d'amour de Richard de Fournival. Et à propos du loup, il rapporte une histoire qui est connue depuis l'Antiquité romaine au moins. Quand un homme ou une femme rencontre un loup, si le loup voit l'homme ou la femme en premier, ceux-ci sont paralysés et vont être dévorés. Si c'est l'inverse, si c'est le loup qui a été vu en premier, il aura peur et il se sauvera et il ne se passera rien. Et alors en amour, Richard nous explique que c'est la même chose. Il ne faut pas être vu le premier. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se déclarer le premier, sinon on va échouer dans sa conquête amoureuse. C'est vraiment de la casuistique courtoise et des stratégies de séduction assez modernes par certains côtés, très personnelles parfois. C'est un très beau texte. D'ailleurs, Richard de Fournival est un personnage important puisqu'il possédait une petite bibliothèque qui a constitué au milieu du XIIIe siècle le noyau le plus ancien de l'actuelle bibliothèque de la Sorbonne. Il a donné ses livres à quelqu'un qui les a donnés au collège de Sorbonne, qui est l'ancêtre de notre Sorbonne.
Alors au-delà de ce bestiaire d'amour et des bestiaires plus savants, philosophiques ou théologiques, le loup occupe bien sûr une place incroyable dans l'ensemble des fables de l'époque.
Oui, même dans la longue durée, quand on prend les fables antiques, les fables médiévales et les fables modernes, il y a des animaux qui reviennent plus fréquemment que d'autres. La liste d'ailleurs n'est pas très longue, et le loup est une des vedettes de la fable, au même titre que le lion, le renard, le rat, l'ours, quelques autres, l'âne, le coq, le singe. Le loup est vraiment une des vedettes. Je crois que seul le renard et le lion sont encore plus fréquents que lui. Et la fable dresse du loup, qu'elle soit antique ou médiévale, ou que ce soit les fables de La Fontaine, un portrait qui est quand même très très négatif. La fable Le loup et l'agneau, par exemple, elle est déjà présente dans le corpus attribué à Ésope, 7 siècles avant notre ère, et ça finit très mal. Le loup accuse l'agneau de choses que l'agneau n'a pas commise, ne peut pas avoir commise, ça ne fait rien, il le dévore quand même, et comme dit La Fontaine, la raison du plus fort est toujours la meilleure. Voilà ce que nous dit la fable à propos du loup. Quelquefois le loup est berné par tel ou tel autre animal. C'est ce qui se passait déjà dans le roman de Renard, au tournant des XIIe, XIIIe siècles. On était là dans une période où probablement la peur du loup était en recul. Et les différentes branches du roman de Renard, qui est une littérature savante et pas populaire, contrairement à ce qu'on croit parfois, met en scène un loup ridicule, Isengrin, un loup qui fait rire, qui est trompé par les autres animaux, qui est victime des ruses du goupil. Mais c'est une sorte de parenthèse, au fond, en Occident, dans la peur du loup, que cet Isengrin, berné, ridiculisé, battu, à la fois par les paysans et par les autres animaux.
Oui, il rappelle déjà presque un petit peu, je m'avance peut-être trop, mais il a des caractéristiques qui peuvent rappeler certains loups de dessins animés du XXe siècle.
Non. Oui, il y a une continuité dans l'histoire culturelle du loup, avec des va-et-vient en liaison avec la peur bien réelle du loup, qui peut être très forte ou un peu plus en retrait selon les époques et les contextes. Mais quand on prend les livres pour enfants ou les dessins animés contemporains, voire les bandes dessinées, on retrouve un certain nombre de traits qu'on a déjà vus auparavant. Et alors, parmi les dessins animés, puisqu'on parle des dessins animés, mais il faut évoquer bien sûr la célèbre créature de Tex Avery, le loup Wolf, qui apparaît en 1942-1943, spécialement dans une version revisitée du Petit Chaperon Rouge, qui est extraordinaire à tout point de vue. C'est un loup séducteur et lubrique qu'a créé Tex Avery, qui rencontre le Petit Chaperon Rouge dans un bar de New York. Alors, c'est pas une fillette, c'est déjà une certaine jeune fille assez appétissante. Et le loup arrache à la jeune fille l'adresse de sa grand-mère et il se précipite en ce lieu avec l'idée de violer et de dévorer et la grand-mère et la jeune fille. Mais quand il arrive, il tombe sur une grand-mère encore plus lubrique que lui qui le terrorise et il s'enfuit, c'est désopilant.
Dans ce jeu de rapport entre l'homme et le loup, il y a une particularité, nous dites-vous, c'est que précisément, il n'y a pas, si j'ai bien lu, en Europe en tout cas, d'idée que l'ancêtre de l'homme serait un loup, ce qu'on peut retrouver pour beaucoup d'autres animaux. Comment a évolué ce jeu de frontières? Parce que au même moment, on a quand même aussi des loups-garous, qui sont des hommes qui se transforment en loups. Où se situe-t-elle et comment évolue-t-elle cette frontière entre l'homme et l'animal?
Oui, dans l'histoire culturelle des animaux, on peut faire des comparaisons. Et pour le loup, bien sûr, la comparaison la plus tentante, c'est de la faire avec l'ours, qui joue un rôle un peu semblable, vénéré dans l'Antiquité, combattu par l'Église, transformé en bête de cirque. Pour l'ours, il y a l'idée quand même qui traverse les siècles que les ours mâles sont attirés par les jeunes filles et les jeunes femmes et peuvent les mettre enceintes et celles-ci accouchent d'êtres qui sont mi-hommes, mi-ours. Donc les deux créatures, l'homme et l'ours, seraient conspécifiques et interféconds. Il n'y a rien de tel avec le loup. Pour le loup, ce sont vraiment des histoires de déguisement et de métamorphose. Et là, il y a le gros dossier des loups-garous, c'est-à-dire des hommes, parfois des femmes, mais le plus souvent des hommes, qui certaines nuits, spécialement les nuits de la pleine lune, quittent leur aspect humain pour prendre un aspect lupin et se livrer à toutes sortes d'exactions, de crimes horribles, se rendre au sabbat. Ces histoires existent déjà dans l'Antiquité. Elles s'accentuent au Moyen-Âge, prennent une forme littéraire, mais sont pleinement à l'œuvre, si je puis dire, au début de l'époque moderne, au XVIe et au XVIIe siècle. Souvent, c'est le fait de quitter ses vêtements qui permet à tel ou tel humain de prendre un aspect de loup-garou, un aspect de lupin, en quelque sorte. Et c'est le fait de retrouver les vêtements qui permettent de reprendre forme humaine. Donc si quelqu'un, entre-temps, a caché les vêtements, le loup-garou est condamné à être garou pendant toute sa vie. Ce mot, d'ailleurs, garou, est d'étymologie controversée, probablement un mot qui vient de la France de l'Ouest. Est-ce qu'il veut dire guerrier? Est-ce qu'il veut dire autre chose? Il faut avouer qu'on ne sait pas très bien. En tout cas, il y a des loups-garous qui sont victimes d'un mauvais sort. Ça n'est pas de leur faute s'ils deviennent garous certaines nuits. Il y en a d'autres qui appartiennent à une famille où cette habitude est héréditaire. Mais le plus souvent, ce sont des êtres qui ont noué une sorte de pacte avec le diable. Ils deviennent loups-garous volontairement pour se rendre au sabbat. Parfois, les sorcières les chevauchent. Donc, on a toutes sortes d'histoires de loups-garous plus ou moins fantasmées dans ce qui se raconte dans les campagnes. et revisité par un certain nombre de textes littéraires. George Sand encore, en plein 19e siècle, quand elle raconte des histoires tirées de son Berry qu'elle aimait tant, parle des loups-garous. Et son fils Maurice Sand, qui est un artiste qui avait beaucoup de talent, un grand graveur, a illustré les œuvres de sa mère, montrant des loups-garous appuyés contre le mur d'un cimetière ou attendant l'heure du sabbat à un carrefour. Maurice Sand, d'ailleurs, c'est un cas très étonnant. Il était l'élève de Delacroix, mais il était paresseux. Et alors, on a des lettres de Delacroix, qui était un ami de George Sand, invitant la mère à faire que son fils travaille davantage. Mais elle n'y est pas arrivée.
Ce que vous nous expliquez également, c'est que contrairement à une idée reçue et encore trop répandue, l'âge d'or de la sorcellerie, enfin plutôt l'âge d'or, l'âge de plus grande répression de la sorcellerie et où le plus grand nombre d'histoires de loups-garous se répandent, n'est pas le Moyen-Âge, mais l'époque moderne. Comment l'expliquer ?
Oui, une croyance assez répandue rattache la sorcellerie au Moyen-Âge. En fait, non. La sorcellerie, c'est une affaire de l'époque moderne. Les grands procès en sorcellerie apparaissent au XVe siècle, mais datent surtout des XVIe et XVIIe siècles. L'Europe, aussi bien protestante que catholique, voit des sorciers partout. Et il y a même un immense juriste, Jean Bodin, à la fin du XVIe siècle, qui, dans ses textes sur l'État, est un précurseur de l'État moderne, mais c'est aussi un démonologue et il voit des loups-garous partout et il écrit même que tous les loups qui fréquentent les forêts européennes ne sont pas des vrais loups mais sont des loups-garous. Il faut les exterminer. Un mélange donc de modernité et de superstition venant de très très loin. C'est ce personnage qui a deux volets en quelque sorte.
Donc, puisqu'on est au loup-garou et au personnage à deux volets, il y a quand même une histoire de loup-garou que vous citez, où c'est un loup-garou peut-être pas bienfaisant, mais en tout cas qui lui n'est pas malfaisant. Et c'est une sorte, on dira après si c'est un cas unique ou une incongruité, et si oui, comment l'expliquer ?
C'est un conte médiéval, en effet, dû à un auteur sur lequel on ne sait rien, Marie de France, qui est active dans la seconde moitié du XIIe siècle, qui nous a laissé de jolis contes et de très jolies fables. Elle écrit en anglo-normand. Est-ce que c'était une femme de la cour d'Henri II ou de Richard Cœur de Lion ? En tout cas, dans ses contes, il y a l'histoire de Bisclavret, qui est un seigneur qui devient, malgré lui, si on comprend bien, malgré lui, loup-garou, certaines nuits, en quittant ses vêtements. Un jour, sa femme lui demande où il va, telle ou telle nuit. Il ne veut pas le lui dire. Puis finalement, elle lui arrache son secret, lui explique qu'il est victime d'un mauvais sort, qu'il devient garou en quittant ses vêtements. Et cette femme est une mauvaise femme. Elle a un amant, un jeune écuyer, donc le couple adultère. Une nuit cache les vêtements du garou, lequel est condamné à rester loup définitivement, enfin presque définitivement, parce que dans une deuxième partie du conte, un jour qu'un roi chassé dans la forêt, il rencontre ce loup un peu curieux, qui est moins méchant, moins sauvage que les autres. Il l'emmène à la cour, et quelque temps plus tard, à cette même cour, arrive le couple adultère, la femme du seigneur devenu garou et son amant le jeune écuyer, et dès qu'il les voit, le loup qui n'a été jamais agressif devient très très agressif, se rue sur eux. Le roi veut en savoir plus, il interroge le couple et ils finissent par avouer qu'ils ont caché les vêtements du garou. Donc celui-ci peut les retrouver forme humaine, et le couple est exilé et il accouche même d'enfants sans nez, puisque le loup-garou s'était rué sur eux et leur avait dévoré le nez. Marie de France ne s'explique pas beaucoup sur pourquoi ce seigneur devient loup-garou plusieurs nuits par semaine, ni à quoi il s'adonne lorsqu'il est devenu garou. Visiblement, contrairement aux autres loups-garous, il ne commet pas d'exactions ni de crimes épouvantables. C'est un gentil loup-garou en quelque sorte, puisqu'il l'est malgré lui.
Alors à propos des gentils loups-garous... Aujourd'hui, les débats ne portent plus, Dieu merci, sur l'existence des loups-garous, sur la nature des loups, mais en revanche, il y a une autre polémique qui porte sur le regard colporté par les historiens sur le loup. Notamment les zoologues, nous dites-vous, s'en prennent aux historiens en les accusant d'avoir donné cette image négative du loup, voire de mentir.
Oui, dans le dossier qui entoure la réintroduction du loup en France, mais aussi dans d'autres pays voisins, réintroduction, d'ailleurs le loup s'est réintroduit tout seul à partir de zones où il n'avait jamais disparu, donc le mot n'est pas tout à fait exact.
Mais on empêche de le tuer.
Voilà, donc en France, il y a un plan loup qui fait du loup une espèce protégée, mais qui autorise quand même à en tuer un certain pourcentage chaque année, donc vraiment décision complètement absurde, et des polémiques très violentes, évidemment, comme on les a vues autrefois pour l'ours, entre les partisans du retour du loup et le droit pour le loup de vivre à l'état sauvage, et puis les éleveurs, les bergers, évidemment, qui veulent protéger leurs brebis. Les positions sont très tranchées, très violentes, de part et d'autre, et dans ces polémiques, les historiens ont été pris à partie par les avocats du loup, défenseurs de l'environnement, éthologue, zoologue même, qui souligne que le loup n'attaque jamais l'homme, et quand les historiens nous racontent des attaques du loup sur l'être humain au Moyen-Âge ou à l'époque moderne, ils se trompent, voire ils mentent, les documents d'archives sont mal utilisés, les registres d'état civil, les chroniques, les gazettes, etc. Donc j'ai voulu, à la fin de mon livre, défendre les historiens. L'un de mes collègues de l'université de Caen, Jean-Marc Morisseau, qui est le grand spécialiste du loup sous l'Ancien Régime en France, a été violemment pris à partie parce qu'il avait recensé avec toute son équipe d'étudiants et de jeunes chercheurs plus de 3000 attaques sur hommes, femmes et enfants dans la France de l'Ancien Régime, alors que les avocats du loup soulignent que celui-ci n'attaque jamais les humains. C'est une polémique absurde parce que elle suppose que les loups d'aujourd'hui sont les mêmes que les loups d'autrefois, ce qui est absolument ridicule, bien sûr, et que la vie des campagnes dans la France du XXIe siècle, c'est la même que la vie dans les campagnes de la France du XVIIe ou du XVIIIe siècle. Mais ça s'est envenimé, et c'est assez inquiétant parce qu'on fait aujourd'hui des choses qu'on ne faisait pas quand moi j'étais étudiant ou jeune chercheur, ce type d'anachronisme qui consiste à projeter dans le passé sans aucune précaution nos savoirs d'aujourd'hui, nos sensibilités d'aujourd'hui, nos morales d'aujourd'hui, avec l'idée que ça aurait dû, ou ça devrait être pareil autrefois, et que si nos ancêtres ne pensent pas comme nous, c'est qu'ils se trompent. Ça devient très très inquiétant, cette espèce d'intolérance. On oublie naturellement que l'histoire des connaissances évolue constamment, et ce que pensent aujourd'hui les plus grands zoologues et éthologues du loup, ça fera sourire, voire rire aux larmes, les grands zoologues dans quelques siècles. Ça a toujours été comme ça, il ne peut pas en être autrement. Pourquoi notre époque aurait-elle des vérités définitives ? Et puis c'est dangereux parce que si on commence à juger le passé à l'aune des valeurs, des savoirs et des morales du présent, même en se limitant à l'Europe, ce qu'on fait là dans le temps, on va bientôt le faire dans l'espace et on va juger les sociétés non occidentales qui ne pensent pas comme nous, qui ont d'autres connaissances, d'autres sensibilités, et on va naturellement dire qu'elles se trompent et on va les condamner. Ça me semble très très dangereux.
À propos de l'évolution du jugement, vous connaissez certainement cette blague des militaires, les généraux disant à ces hommes de troupes, on est dirigé par des cons, patience, votre tour viendra. Eh bien, c'est un petit peu le même processus qui se produit en effet. En jugeant de la sorte, on s'expose au jugement des historiens du futur, à n'en pas douter. Toutefois, vous nous expliquez que dans l'histoire elle-même, le rapport au loup a très largement évolué en raison de nombreux facteurs, notamment climatiques. C'est-à-dire que dans cette histoire culturelle, on voit qu'il y a d'autres éléments que la culture elle-même et que ce ne sont pas les idées qui se développent, qui évoluent selon leur propre dynamique, mais qu'il y a bien d'autres facteurs et qu'il y a plusieurs phases dans cette évolution du rapport au loup. Est-ce que vous pouvez nous les synthétiser en guise de pré-conclusion ?
Oui, donc l'histoire culturelle du loup, elle est en phase avec la présence physique du loup sur tel ou tel terroir. Mon livre ne porte que sur l'Europe occidentale, parce que les problèmes dont je parle sont d'abord des problèmes de société, et pour en parler convenablement, il faut connaître les sociétés concernées. Donc l'historien que je suis ne peut pas connaître toutes les sociétés de la planète, donc je me limite à l'Europe occidentale, c'est déjà un gros morceau dans la longue durée. Et les liens sont étroits, toujours, entre l'histoire naturelle et l'histoire culturelle. D'ailleurs, pour l'historien, l'histoire naturelle, c'est une forme d'histoire culturelle parmi d'autres formes d'histoire culturelle, bien sûr. Et un élément essentiel, c'est le climat qui conditionne la vie des hommes et des animaux. Et donc, la peur du loup qui va, qui vient. En gros, on peut dire que dans l'Antiquité gréco-romaine, le loup ne fait pas tellement peur aux humains. Puis cette peur revient ou se développe pendant le haut Moyen-Âge chrétien. Elle s'atténue un peu au cœur du Moyen-Âge, 12e, 13e siècle, c'est l'époque du roman de Renard qui met en scène un loup ridicule. Elle revient à la fin du Moyen-Âge, elle devient très très accentuée au 16e, 17e, 18e siècle. L'affaire de la bête du Gévaudan a lieu au 18e siècle, pas du tout au 13e siècle, hein. C'est un document en soi que cette chronologie. La peur du dure jusque, parfois en plein 19e siècle, au fond jusqu'à ce que le loup disparaisse physiquement de certaines régions, et que en 1885, Pasteur et son équipe mettent au point le vaccin antirabique. Donc la peur du loup et de la rage vont rapidement diminuer, et après le grand méchant loup, on va voir apparaître assez rapidement, au tournant des 19e, 20e siècles, un gentil loup qui est encore présent, bien présent aujourd'hui, dans le bestiaire pour les enfants. D'ailleurs, pour écrire ce livre, j'ai fait quelques enquêtes dans des librairies, au rayon des livres pour enfants, pour essayer de voir quel était parmi les animaux la vedette actuelle dans le livre pour enfants. Ce n'est plus le cochon, comme ça l'a été pendant très longtemps, ce n'est plus l'ours, comme ça l'a été autrefois. C'est le loup aujourd'hui, et très nettement même. Les histoires de loups sont vraiment très nombreuses, et le plus souvent, c'est un, qu'il soit grand ou petit, c'est un gentil loup. On revisite même des histoires traditionnelles. Les trois petits cochons et le grand méchant loup deviennent le grand gentil loup et les trois méchants petits cochons, ou au contraire, les trois gentils louveteaux et le grand méchant cochon. Voilà.
Dans les trois cas, d'ailleurs, c'est un retournement, puisque à la fois l'ours et le loup étaient des animaux négatifs. C'est peut-être simplement un des symptômes du goût de notre époque pour le contre-pied, non ?
Pour le contre-pied, et puis, bien sûr, c'est en phase avec la nouvelle attitude que nous adoptons, en tout cas en Occident, vis-à-vis des animaux. On ne peut pas séparer ces dossiers de tout ce que, toutes les questions que nous posons aujourd'hui sur la consommation de viande, sur le sort réservé aux animaux d'élevage, sur les porcheries industrielles. Tout ça est lié, bien sûr, et ça va moins vite qu'on ne le croit, mais il y a quand même un nouveau regard sur le monde animal, et le nouveau regard sur le loup en fait partie.
On va bientôt voir des loups véganes, alors.
Pardon ?
On va bientôt voir des loups véganes, alors.
Alors, je ne sais pas si on verra des loups véganes. Oui, ce serait une belle histoire dans un livre pour enfants. Retourner le retournement. Oui, très bien.
Écoutez, si ça se produit, en tout cas, il y aura une édition revue augmentée. J'invite nos auditeurs à se plonger, en tout cas, dans la première édition, qui n'en est déjà plus tout à fait une, puisqu'il y a eu un retirage immédiat, tant le livre rencontre du succès, et c'est mérité. J'ai oublié de préciser plusieurs choses. Une qui m'a valu des gros yeux de la part de mes camarades dans le studio, c'est que j'ai oublié de préciser que vous étiez membre correspondant de l'Académie des inscriptions et belles lettres. Premier oubli. Réparé. Le second, c'est que le livre s'intitule très exactement Le Loup, une histoire culturelle par Michel Pastoureau, donc aux éditions du Seuil. Et qu'enfin, il s'agira d'une série, car c'est l'avantage du succès, c'est que du coup, l'éditeur soutient votre volonté de poursuivre l'exploration d'un bestiaire beaucoup plus vaste. Et je terminerai donc par une nouvelle question. Savez-vous d'ores et déjà quel animal vous allez traiter dans les dans les prochains livres.
Voilà, donc une série qui se consacrera à ce que j'ai appelé tout à l'heure le bestiaire central des sociétés européennes. Donc après un sauvage, j'aimerais traiter d'un domestique. J'ai le choix entre l'âne, le taureau, le coq et quelques autres. Comme le livre s'accompagne d'une abondante iconographie, il faudrait que ce soit un animal qui ait produit au fil des siècles une abondante iconographie et séduisante iconographie, et qu'il y ait, comme pour le loup, un problème actuel, peut-être pas des polémiques, mais en tout cas une question d'actualité, la tauromachie par exemple pose
problème,
le taureau est très bien placé, voilà.
Et bien, nous nous réjouissons de bientôt pouvoir lire donc une histoire culturelle du taureau. Merci beaucoup Michel Pastoureau.
Merci à tous.